2. Vous m'entendez? Oui? Non, pas encore. Ça va venir. 1, 2. Oui, c'est bon. Voilà. Gloire à Dieu. Soyez la bienvenue pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Même pour ceux qui, c'est peut-être la première fois qu'ils mettent les pieds dans une église à écouter l'évangile. Vraiment que ce matin, l'esprit de liberté règne au milieu de nous, qu'il y ait vraiment il y a la bienveillance ici de Dieu. Il y a le regard de Dieu bienveillant sur chacun de nos vies. Je voudrais vous introduire dans ce message avec une question simple, mais qui donne de la réflexion. Trouvez-vous qu'il soit toujours facile de louer Dieu? Trouvez-vous qu'il soit toujours facile de louer Dieu? Ça donne de la réflexion. Et je pense que des fois, les silences en disent long. Non, je pense qu'il y a des moments où ce n'est pas toujours facile de louer Dieu. Et à travers ce que je vous ai apporté ce matin, nous allons voir que Dieu a des choses à faire en nous pour que nous puissions le louer. Vous êtes d'accord que Dieu a encore des choses à faire en nous? Alors, on va ouvrir la Bible dans Ésaïe au chapitre 61. Donc, c'est un passage qui est très connu. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. Est-ce que ça va au niveau de la voix? Vous n'êtes pas... C'est bon? Il y a un petit peu d'écho. Donc Alexandre, si tu pouvais enlever Monsieur Écho. Alors Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc il est parlé ici de Jésus-Christ, et Christ ça veut dire oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Ces paroles sont importantes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a reprises au début de son ministère public et en nommant ces paroles, il a dit, voilà, ces choses-là sont accomplies à travers sa venue. D'entrée, Dieu nous met devant un plan. Et le plan de Dieu, ici, c'est de faire de chaque homme et chaque femme des adorateurs. Il est écrit que son but, c'est de nous revêtir d'un vêtement de louange. Nous revêtir d'un vêtement de louange. La volonté de Dieu, c'est de nous faire vivre la louange, d'être dans la louange. Alors, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que la louange? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La louange, ça exprime de la reconnaissance à l'égard de Dieu. On l'a chanté, ma reconnaissance. Ça exprime de l'adoration. La louange exprime de l'adoration. Des félicitations. Il y a un sentiment de reconnaissance. La louange exprime aussi quelque chose qui est proche de la satisfaction et du contentement. Et c'est là qu'on commence à toucher à notre problème. Si notre être n'est pas dans cette satisfaction et ce contentement, on a du mal à être rempli de louanges. Alors pourquoi, nous, les êtres humains, on a tellement de mal à vivre dans la reconnaissance, dans le remerciement, dans les félicitations? Tout simplement parce que notre vie est remplie de sujets de mécontentement. Notre vie est remplie de sujets de mécontentement. Mais Dieu, ce matin, propose une chose, c'est de faire un échange. Dieu veut nous faire un échange ce matin, il veut peut-être enlever ton habit de ce matin pour te revêtir d'autres choses. Il veut faire un échange, il veut nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Quelle est cette image que Dieu nous donne à travers ce deuil? Il nous parle du deuil. Le deuil, c'est quelque chose qu'on ressent quand on perd quelque chose de précieux. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont dans cet état d'esprit, dans le deuil. Mais le deuil, ce n'est pas uniquement qu'on ait perdu quelqu'un, mais ça peut être aussi ressenti quand il y a des choses qu'on n'a pas obtenues ou des choses qu'on a perdues. On peut être dans le deuil parce qu'il y a eu des espoirs ou de l'espérance dans telle ou telle chose, mais les choses sont restées uniquement de l'ordre de l'utopie. Et certaines personnes peuvent être dans le deuil. Le deuil, ce qu'on voit dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, les gens, quand ils passaient par le deuil, il y avait quelque chose qui était très, très expressif. Ils se couvraient d'un sac, ils se mettaient de la cendre sur eux, ils se roulaient par terre, ils prenaient même cette poussière, ils se l'achetaient sur soi. Certains allaient jusqu'à se faire des incisions à la surface de la peau, comme pour extirper un mal qui ronge, quelque chose qui est là. Ils sont en train de se faire des incisions, comme pour vouloir faire sortir ce mal. Et d'autres allaient encore plus loin et ils étaient tentés de communiquer avec les morts. Un chrétien très affermi dans la foi, quelqu'un qui était très posé dans le Seigneur, un jour a témoigné de cela. Il a dit que quand il est passé par cette épreuve du deuil de sa femme était morte, et il disait qu'il pouvait comprendre quelque part que certaines personnes veuillent communiquer avec les morts. C'est une tentation qui est humaine, parce que cet homme-là avait vécu donc le deuil de sa femme, et soudainement, à la maison, il était tout seul, mais il se mettait à l'appeler. Et là, il s'est repris, et il disait qu'il pouvait comprendre que certaines personnes soient tentées d'essayer de communiquer avec les morts. Par contre, la Bible est claire à ce niveau-là. Nous avons bien sûr, et le sujet est délicat, quand vous avez perdu quelqu'un, c'est normal d'avoir des bons souvenirs, des choses vis-à-vis de cette personne qui est défunte. Mais il y a une limite à ne pas dépasser, c'est de vouloir penser, communiquer avec les morts. Victor Hugo, donc cet écrivain, c'est quelqu'un qui a dit dans sa vie, il faudrait une Bible dans chaque cabane. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Cet homme voulait que l'évangile soit dispersé dans les villages. Mais par contre, ce qu'on sait moins de cet homme, c'est que Victor Hugo a vécu la fin de sa vie dans le spiritisme. C'est un homme qui a perdu sa fille à l'âge de 20 ans et il est tombé dans le spiritisme. C'est-à-dire qu'il a connu quelqu'un qui faisait tourner les tables ou qui avait l'écriture automatique, et cet homme-là est tombé dans cette tentation de communiquer avec les morts. Ce que l'on peut dire, quand quelqu'un passe par le deuil, il est capable de faire des actes de désespoir. Des actes de désespoir. Et peut-être que quelqu'un parmi nous ce matin a cet esprit abattu, voire de la peine ou de la tristesse, voire une personne qui est dans le deuil, parce que la vie est semée de nombreux tombeaux. Mais Jésus-Christ, c'est ça là-dessus que je veux appuyer, c'est que Jésus est venu pour ceux qui sont dans le deuil. Amen. Afin de les revêtir de quoi ? D'un habit de louange. Les revêtir d'un habit de louange. Les vêtements de l'époque, un vêtement de louange, les vêtements de l'époque, c'était pas, il n'y avait pas de fermeture, éclair, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus de boutons. C'était des habits qui étaient faits d'une seule pièce. Et pour pouvoir enlever le vieux vêtement, il fallait lever les bras. Et pour pouvoir revêtir le nouveau vêtement, il fallait aussi lever les bras. Je vous donne cette image, parce que lever les bras, c'est crier à Dieu. « Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance dans ton pouvoir et dans ton amour, revêt-moi de ce vêtement de louange. » Est-ce qu'on peut se débarrasser ce matin de ce vieux vêtement et demander à Dieu qu'il puisse nous revêtir d'un vêtement de louange? Amen. Qu'est-ce qui procure un esprit abattu? La Bible est claire à ce niveau. Le péché, déjà, ça ne peut pas donner un esprit d'adoration. Il y a aussi les mauvaises pensées. Au tout départ, dans la Bible, il est marqué que Caïn a eu de mauvais sentiments vis-à-vis de son frère. Les mauvaises pensées, ça ne peut pas donner un esprit joyeux, ça donne un esprit abattu. Le mécontentement, l'ingratitude, se plaindre toujours, ça ne donne pas un esprit joyeux. Se plaindre toujours d'un tel et un tel, parce que la personne n'est pas forcément à l'image qu'on attend d'elle. Mais quand la Bible nous parle d'un esprit abattu, je ne pense pas, elle ne parle pas d'un moment d'abattement. Je voudrais faire un distinguo par rapport à ça. Les hommes et les femmes de la Bible ont tous connu des moments d'abattement. Moïse, à un moment de sa vie, a connu des moments d'abattement et de découragement. Paul aussi a connu des moments d'abattement. Il est dit dans la Bible, dans 2 Corinthiens, que quand quelqu'un quittait la foi, il venait à tomber, il est dit que Paul brûlait, c'est-à-dire qu'il avait la fièvre, il en était malade. Il avait un moment d'abattement. Même Jésus a eu un moment d'abattement. Jésus a un moment d'abattement. Dans le jardin de Gethsémané, il est marqué deux fois dans les évangiles, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc je ne suis pas partisan de ce dicton, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, un chrétien triste est un triste chrétien. Voilà, j'affirme que c'est faux. Parce que le plus fidèle des enfants de Dieu peut avoir des moments d'abattement. Mais je crois que là, quand Dieu nous parle d'un esprit abattu, je pense plutôt qu'il parle d'un abattement chronique, quelque chose qui dure, qui est dans le temps. Et il y a des gens sur cette terre qui ont cette tristesse. C'est-à-dire que même sans cause, il y a une tristesse qui est là. Et ce sont des gens qui sont malheureux. Ils sont toujours en train de voir ce qu'ils ne ont pas eu au lieu de voir ce qu'ils ont. Et il y a un esprit comme ça qui est là pour abattre notre âme. Est-il possible aujourd'hui d'avoir la force de recevoir le pouvoir d'abandonner ce vêtement de deuil? Est-il possible aujourd'hui d'enlever ce vêtement de deuil? Oui, je vois des têtes qui disent oui, oui, il est possible. Et ce remède se trouve en Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu, et je vais le relire, nous parle d'un processus de guérison. Et Dieu est capable de faire dans nos cœurs une guérison et de nous amener à cette adoration de Dieu. Je ne voudrais pas que ce matin vous vous sentiez découragé quand je parle de cet abattement. Peut-être que certaines personnes se ressentent comme ça, avec cet esprit abattu. Mais on a un Dieu qui est puissant et grand. Ce qu'il veut ce matin, ce n'est pas nous tendre le doigt en disant « t'as vu comment tu es ?» Non, il est là pour dire « hey, je suis là et je sais comment te sortir de là. » On va relire Ésaïe. On va relire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Oui, je l'affirme, Jésus-Christ est venu pour ceux qui ont cet esprit de deuil. Et on a besoin que Dieu vienne en nous pour nous guérir et pour qu'on soit porté à la louange. Pour que je sois juste dans ce que je vous donne, parce que la parole, c'est une épée à deux tranchants. Il y a un tranchant, mais il y a aussi un autre tranchant. L'autre tranchant, c'est que pour pouvoir être guéri du deuil, il faut aussi porter un certain deuil. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de perdre la tête, mais pour être guéri du deuil, il faut porter un certain deuil. Je vous invite à faire la lecture dans Jacques, chapitre 4, au verset 8. Alors moi, je vais le lire suivant une version Parole de vie. Elle va être un petit peu différente par rapport à la vôtre. Donc Jacques, chapitre 4, verset 8. Tenez-vous tout près de Dieu, il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains. Hommes indécis, purifiez vos cœurs. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez sur ce que vous avez fait. Que votre rire se change en deuil et votre gaieté en tristesse. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Pour être guéri d'un certain deuil, il faut accepter un deuil. La Bible nous invite ici à changer notre rire en deuil. Ce qu'elle nous demande, la parole de Dieu, à ce niveau-là, c'est que on ne se berce pas d'illusions, qu'on ne se berce pas d'illusions. Nous ne devons pas nous trouver des consolations avec des chimères, se fabriquer des consolations. Et c'est vrai que sur la terre, il y a des marchands d'illusions et des marchands de consolations. Vous savez, toutes ces substances qu'on peut donner ou que les jeunes, vers lesquels, ou les jeunes ou les moins jeunes, se tournent, ces drogues, etc., c'est de l'illusion. Moi, il y a un verset qui m'a beaucoup touché au moment de ma conversion. C'était « Celui qui rêve de manger se réveille le gosier vide ». Et ça, c'est de l'illusion. Prendre des substances, on se fait un monde, mais le jour où on se réveille, on voit qu'on n'a rien du tout. On se réveille et on a faim, on a faim de la vérité. Il y a beaucoup de marchands d'illusions. Vous savez, sur la terre, on va dire « profite de la vie, fais ça, fais ceci ». Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas telle ou telle chose. Et à cet égard, la Bible nous dit « non, ressentez votre misère, que votre rire se change en deuil ». Parce que là, ce n'est même pas un rire, c'est une grimace. Que la Bible nous invite à enlever nos masques et abandonner notre hypocrisie et à se sonder soi-même en disant « Seigneur, tu vois comment j'ai été ?» Et il dit « pleurez sur votre misère ». Et si on fait ce deuil, si on reconnaît réellement qu'on a vécu un échec, que la vie n'a pas de sens, si on s'approche de Dieu avec cette reconnaissance, il nous guérira de l'esprit du deuil. Donc je voulais faire cette parenthèse. Donc il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a un deuil qu'on doit porter. Mais le Seigneur veut nous libérer de cet esprit abattu. Maintenant, je voudrais vous conduire vers le remède de Dieu. Ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous pour nous revêtir de ce vêtement de louange. J'ai un concurrent, mais ils sont plus forts souvent. On va parler d'Abraham et je voudrais bien, Ruth, que tu projettes le verset. Je projette le verset parce que c'est la version Louis II, version 1910, et ça se rapproche plus de ce que je veux vous apporter. Alors on va le projeter, puis je vais vous le lire. Donc là, on va parler d'un homme de l'Ancien Testament qui est Abraham et qui a eu cette expérience. Il était dans ce vêtement de deuil et Dieu l'a libéré. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort. Et il parlait ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Ces paroles sont touchantes parce qu'elles expriment quelqu'un qui passe par le deuil. Donc là, c'est Abraham qui passe par le deuil. Sarah vient de mourir. Ici-bas, sur terre, chaque être humain, homme et femme, sont mortels. Et c'est vrai que la fin de la vie, bon, je ne dis pas ça pour vous tenir dans la morosité, mais notre vie se termine par un décès. Donc, c'est bon aussi de savoir que... Parce que des fois, on vit un petit peu dans l'illusion, mais la vie nous est prêtée. On a l'espérance en Jésus-Christ, alors qu'on puisse faire ce qu'on doit faire sur la terre. Ici, donc, Abraham est dans le deuil et il pleure Sarah. Donc ça, c'est un premier stade. Je vais vous parler seulement de ce premier stade. Abraham vient, il mène le deuil sur Sarah et il la pleure. Et je pense que des fois, certaines personnes peuvent ressembler à ce stade-là. Comme je vous l'ai dit, la mort, ça peut être, donc un mort, une personne, mais ça peut être aussi un idéal que les uns et les autres n'ont pas eu ou n'ont pas réalisé. Quand un idéal ne s'est pas réalisé, vous savez, vous pouvez passer votre vie à le regretter. Passer le temps à regretter ce que vous n'avez pas eu. Et honnêtement, ce matin, si on fait un bilan sur nous-mêmes, on peut être dans la tristesse parce qu'on se dit que la vie ne m'a pas apporté ce que j'aurais voulu. Si on veut être honnête, certains, on peut se faire un bilan sur nous-mêmes en disant « la vie ne m'a pas apporté ce que j'aurais voulu ». Donc bien sûr, je ne veux pas faire de la peine et je sais que ce sujet est assez délicat, mais c'est la vérité. La vie ne nous a pas toujours apporté ce qu'on aurait voulu qu'elle nous apporte. Et quand un idéal ne s'est pas réalisé, bon, j'aime pas trop prendre ce mot idéal parce qu'on ne croit pas dans un idéal, on croit en une personne, on croit en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'un idéal, mais j'ai besoin d'un sauveur. Mais si on veut reprendre le terme familier, quand un idéal dans ta vie ne s'est pas réalisé, peut-être que tu as un idéal social, un idéal familial, un idéal conjugal, hein, mari et femme, un idéal professionnel, et voire même un idéal spirituel. Quand cette chose dans nos vies ne s'est pas réalisée, eh bien, on peut avoir une certaine tristesse au fond de notre cœur, une certaine tristesse, une mélancolie qui est là, permanente. Et on est un peu comme Abraham, on est là en train de mener deuil sur quelque chose qu'on est toujours en train de pleurer. On peut être dans ce stade-là, mais la parole de Dieu ne parle pas que de ce stade. Il y a d'autres stades juste après. On voit que la Bible nous dit qu'Abraham menait deuil sur Sarah et la pleure. Après, Abraham se leva de devant son mort et il dit « Donnez-moi la possession d'un tombeau pour que je puisse ôter le mort de devant moi. » Ça, c'est les autres étapes. Quand vous avez toujours quelque chose devant les yeux, quelque chose dans l'esprit, toujours, en permanence, comment ça s'appelle ? De l'obsession, une idée fixe. Et là, je suis touché parce que pour moi, on vit dans un monde malade et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent de ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça parce qu'ils ne peuvent pas ôter le mort de devant eux. Ils ne peuvent pas ôter cette idée de devant eux. Et le mort est toujours là. Ce sont des choses, comme on l'a dit, des idéaux qui ne se sont pas réalisés, des choses que la vie a amenées et que les uns et les autres regrettent. Et nuit et jour, c'est là. Et ça obsède. Il y a comme un tourment. Certaines personnes vivent dans ce tourment. Et le mort est toujours là, devant nous. Abraham dit, je voudrais un tombeau pour ôter le mort de devant moi. Et Abraham se leva de devant son mort. Abraham se leva de devant son mort. Un jour, le Christ l'a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Car se lever de devant son mort, c'est difficile. Et même, je dirais que c'est impossible. Vous avez beau vous dire, je ne vais plus y penser. Je ne vais plus en parler. C'est plus fort que vous, ça revient. Ça revient sans cesse. Si ça ne revient pas dans vos paroles, ça va revenir dans vos rêves. Et puis le matin, vous allez vous trouver plus fatigué que la veille au soir. Mes frères et sœurs, amis, on ne peut pas se guérir du deuil tout seul. On ne peut pas être guéri de l'esprit abattu sans l'intervention de Dieu. Amen. Et si nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour nous entretenir sur nos misères et sur nos morts, mais c'est pour rencontrer un Dieu qui a le pouvoir de nous donner de se lever devant notre mort. Amen. Il y a quelque chose qui est très simple dans la parole. C'est en mettant son mort dans un tombeau qu'Abraham ne l'a plus eu devant les yeux. C'est simple ce que je vous dis. C'est en mettant son mort dans un tombeau qu'il ne l'a plus devant ses yeux. Y a-t-il un tombeau où on puisse déposer nos morts? Nos morts qui nous obsèdent. Y a-t-il un tombeau? On vient juste de passer Pâques. Y a-t-il un tombeau où on puisse mettre nos morts qui nous obsèdent? La parole nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce tombeau nous parle de quelqu'un qui a été dans la mort pour faire mourir ce qui nous fait mourir. C'est Jésus. Jésus a été dans la mort pour faire mourir ce qui nous fait mourir. Et Abraham, la clé de sa délivrance, est passée par ce tombeau. Et ça, c'est l'image de la mort de Jésus-Christ. On pourrait se dire, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Dieu est grand. Il aurait pu choisir un autre plan. Pourquoi il a fait mourir Jésus-Christ? Il aurait pu. Est-ce que ses actes ne pouvaient pas suffire? Est-ce que ses miracles ne pouvaient pas suffire? Est-ce que sa vie ne pouvait pas suffire? Non, il fallait que le Christ passe par la mort. Il s'est chargé de ce qui nous fait souffrir et il a fait mourir cela dans la mort. Il a fait mourir la mort. C'est impressionnant, il a fait mourir la mort. La parole nous le dit dans 2 Timothée 1, 10. Il a fait mourir la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a fait mourir la mort. Mes frères et sœurs, mes amis, Jésus est venu pour nous délivrer du deuil et nous conduire dans la louange. Est-ce que vous le croyez ce matin, que Jésus-Christ, amen, est venu pour nous délivrer du deuil, même si c'est un thème qui n'est pas forcément, ça paraît un peu, pas morbide, mais c'est le meilleur endroit pour parler de la vie et la mort, c'est l'Église. Parler de la morale ou quoi que ce soit, l'extérieur est capable de le faire, mais ici, c'est un lieu de vie. Dieu veut te donner la vie, Dieu veut te donner cette espérance, Dieu veut te faire quitter cet esprit abattu, Dieu veut te donner de repartir la vie et la mort. Et Jésus-Christ est mort pour faire mourir tout ce qui te fait souffrir. Alors ce matin, votre mort, ce qui est devant vos yeux, ce tourment, ce regret, cette tristesse, ces fameuses questions qui, si j'avais su, si j'avais pas fait cela, si j'avais su, est-ce que ce matin, ce mort, vous voulez l'amener à la croix? Est-ce que vous voulez l'amener à la croix ce matin, ce mort, ce qui vous fait souffrir? Pour certains, ce mort est toujours vivant. Je voudrais vous donner un témoignage qui m'a été rapporté d'un pasteur. Ce témoignage touche un homme dans les années 60, un homme qui était chrétien, mais qui vivait dans une perpétuelle amertume. Et un jour, cet homme s'est entendu dire la phrase suivante, et vous allez comprendre pourquoi après. Il a entendu « Votre problème, à vous, c'est Adolf Hitler ». Alors cet homme, un peu sceptique, mais Adolf Hitler, il est mort. Il y a longtemps qu'il est mort, Adolf Hitler. Mais pour vous, il n'est pas mort, il est toujours vivant. Cet homme, en fin de compte, avait vécu 5 années de captivité. Et on peut comprendre que 5 années de captivité, ça donne des souffrances dans le cœur. Mais cet homme-là, juste après ses années de captivité, s'entretenait toujours dans des idées noires, dans des choses, dans une certaine amertume. On me donne le temps d'éteindre. Dans une certaine amertume. Et en fin de compte, pour dire qu'il s'entretenait dans une certaine amertume, il avait un petit carnet chez lui où il notait tous les noms des gens qui avaient quitté l'Église. Tous les noms des gens qui avaient quitté l'Église. Donc, il s'entretenait toujours avec des idées noires. Et un jour, il a entendu dire cette chose en disant « Votre problème à vous, c'est Adolf Hitler. Votre problème à vous, il faut que vous fassiez mourir votre rancune. Il faut faire mourir votre rancune, il faut faire mourir votre haine, il faut la mettre au pied de la croix. » Il faut la mettre au pied de la croix. C'est vrai que cet homme avait perdu 5 années de sa vie, mais il devait déposer cette amertume au pied de la croix. Il y a actuellement des petites publicités qui nous parlent de la haine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on nous parle de toute cette haine raciale, toute cette haine. Moi, ce que je voudrais dire, cette haine, on doit la déposer au pied de la croix. Cette rancune, on doit la faire mourir au pied de la croix. Je ne sais pas si vous comprenez mon exemple, mais c'est vrai qu'il y a des moments où vous avez peut-être subi certaines choses. Cet homme avait subi des choses de la Seconde Guerre mondiale, et Adolf Hitler, pour lui, il était toujours vivant, parce qu'il le maintenait vivant alors qu'il était mort. Et Dieu nous demande de déposer nos morts, de déposer ces choses-là. Ce matin, le message que je voudrais vous donner, c'est que Abraham se leva de devant son mort. Abraham se leva de devant son mort. Ce matin, si vous le faites, si vous apportez à Dieu ce tourment, ce regret, eh bien, on va pouvoir vivre ce que le prophète a dit de la part de Dieu en parlant de Jésus-Christ. Parce que son sacrifice est suffisant pour cesser de porter ce deuil. Amen. Et le Seigneur est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. J'aimerais terminer tout simplement par la prière ce matin. Si on pouvait se recueillir. On va prier, puis je vais prier pour... Amen, Seigneur. Il se peut que ce matin, il y a quelque chose qui a... Quelqu'un se sent touché à travers cette situation. Peut-être que j'ai touché certains points de la vie de certains. Peut-être que certaines personnes sont dans cet esprit de tristesse. Il y a peut-être aussi un mort dans leur vie. Il y a quelque chose qui est là, obsessionnel, et qui fait souffrir. Quelque chose qui hante la vie. Quelque chose qui hante tes conversations, qui empoisonne le cours de ta vie. Seigneur, je te prie que tu puisses donner la force ce matin, que ces personnes puissent t'apporter eh bien, ce tourment, ce péché, que tu puisses les guérir, Seigneur, et les débarrasser de cet esprit de deuil, pour leur donner un vêtement de louange et de reconnaissance. Sur la croix, Jésus, tu es mort. Mais tu n'es pas resté à la croix, tu es ressuscité et tu as laissé dans la mort le pouvoir du péché, le pouvoir de Satan, et tu as fait mourir ce pouvoir. Ce matin, nous voulons proclamer la victoire totale et complète de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de passer, s'il te plaît, dans les rangs et de donner cette occasion à certaines personnes de pouvoir se débarrasser de ce mort, Seigneur, de pouvoir te confier cette rancune, cette amertume, que tu puisses, Seigneur, aider les uns et les autres à se relever de ce qui a été vécu dans leur passé. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'a fait, mais tu es responsable de ce que tu fais avec ça. Et nous voulons prier, Seigneur, pour que ce mort puisse être mis dans ce tombeau pour l'ôter de devant les yeux, qu'il n'y ait plus d'obsession, d'idées fixes. Nous prions, Seigneur, que nous prêchons la vie en Jésus, que cette vie se propage, Seigneur, dans ton assemblée, que les gens puissent donner leur cœur à toi. J'aimerais encore, à travers cette prière, inviter, si quelqu'un se sent touché par ce message, eh bien de prier. Je vais faire une prière, vous n'avez qu'à suivre cette prière. Et si quelqu'un veut faire ce geste, tout simple, on ne regarde pas, parce que ces choses-là sont intimes, mais si tu veux faire ce geste en te levant seulement à ta place pour dire je veux me lever de devant mon mort. Si tu veux accorder ce geste, sens-toi libre. Seigneur, je t'apporte ce point de ma vie qui me tient en deuil. Ce regret, ces choses que je n'ai jamais accomplies. Je regrette de ne pas avoir vécu un certain bonheur affectif, conjugal, sentimental. Je regrette de ne pas avoir vécu un certain confort, une certaine forme de santé. Je pleure parce que je regarde à ce que je n'ai pas eu. Et je suis, Seigneur, dans l'abattement. Je t'apporte cela ce matin et guéris-moi. Que tu puisses prier ainsi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris mon cœur, délivre-moi de ce deuil et conduis-moi, s'il te plaît, mon Dieu, dans la louange. Délivre-moi de ce deuil. Qu'il y ait des guérisons maintenant, ce matin, dans les cœurs, dans les corps. Et s'il y a une personne déprimée au milieu de nous, souffrant de dépression, qu'il n'y ait pas de sentiment de jugement, mais que tu puisses le guérir, s'il te plaît, mon Dieu. au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses le guérir. Tu l'as dit toi-même, tu es venu, Seigneur, pour les captifs. Tu es venu pour donner une huile de joie au lieu du deuil. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous savons qu'il y a des méthodes à l'extérieur, mais nous ne voulons pas nous appuyer que sur ça. Nous voulons prier que tu puisses agir, Seigneur, par ton esprit, que tu puisses guérir. Peut-être que le diable vous tourmente. Il vous rappelle toujours et sans cesse que vous n'allez pas obtenir ce que vous regrettez. Au Seigneur, que l'ennemi puisse s'éloigner. Nous savons que l'ennemi est un menteur. Il nous dit sans cesse que nous ne pouvons pas en sortir, que nous n'aurons jamais la santé, la gloire, la fortune, le mariage. Mais nous savons qu'il est menteur. Car le seul qui apporte le bonheur, c'est Jésus-Christ. Même si nous devons faire le deuil sur certaines choses que nous n'avons pas eues, nous savons que l'importance est auprès de toi, Seigneur, et que tu peux continuer à vivre cette vie parce que le Seigneur est là pour te soutenir. La seule chose sur laquelle, Seigneur, nous voulons mener deuil, c'est sur notre péché. C'est la seule chose, Seigneur, que nous voulons confesser devant toi. Et nous savons que tu es juste pour pouvoir le pardonner. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué et béni. Amen, Jésus. Amen. Amen. J'ai à cœur de... J'ai demandé à l'équipe de louange qu'on puisse aussi terminer par un chant. Pour pouvoir enlever ce vieux vêtement et puis prendre le vêtement de louange.